Bonjour à tous les auditeurs, nous sommes ravis de vous accueillir et de débuter cette émission spéciale sur les femmes oubliées par l'histoire. Nous allons commencer par accueillir Myriam.
Bonjour Lila et bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous.
Myriam, vous allez nous parler de Trotula de Salerne.
Oui, c'est bien ça et c'est un vaste sujet.
Qui était-elle ?
C'était une femme médecin qui a vécu en Italie au Moyen-Âge.
Au Moyen-Âge ?
Oui, plus précisément au XIe siècle.
Pourquoi venez-vous nous parler d'elle ?
Elle a été oubliée par l'histoire. Personne ne la connaît alors qu'elle a conçu des médicaments permettant aux femmes d'accoucher en ayant moins mal. C'était une pionnière de la gynécologie.
Une pionnière ? Pouvez-vous nous en dire plus ?
Une pionnière, c'est une femme qui est la première à se lancer dans une entreprise, à tracer un chemin.
Et la gynécologie ?
C'est une discipline médicale qui étudie l'appareil génital des femmes. Trotula a écrit les premiers ouvrages de médecine féminine. Elle a notamment travaillé sur l'accouchement et préconisé l'utilisation d'opiacés pour atténuer les douleurs de l'accouchement.
Les opiacés quoi ?
Les opiacés, des médicaments contenant de l'opium.
J'ai entendu dire que l'Église ne l'aimait pas beaucoup.
En effet, Trotula allait à l'encontre des mentalités de son époque et de l'Église pour qui les femmes devaient souffrir en accouchant. C'est la Bible qui le disait.
Quelle époque et quelle femme courageuse. Merci beaucoup, Myriam.
Merci de m'avoir permis de présenter Trotula.
Nous laissons maintenant la parole à Luc et Simon.
Merci les filles. Bonjour chers auditeurs et bonjour Simon.
Bonjour Luc.
De qui allons-nous parler maintenant ?
Eh bien de Marie Huning, une autre femme oubliée par l'histoire.
Où et quand est-elle née ?
En 1799, en Angleterre, et plus précisément à Limerigis.
Quelle est son histoire ?
Enfant, Marie cherchait des fossiles sur la plage pour gagner un peu d'argent. Elle les revendait aux touristes. À 14 ans, catastrophe, son père meurt. Elle doit arrêter ses études, collecter des fossiles et les revendre lui permet de survivre.
Mais ce n'est pas pour cette raison que vous venez nous parler d'elle.
Mais si, justement. La même année, elle fait une incroyable découverte. Elle met à jour un squelette d'ichthyosaure, une trouvaille exceptionnelle.
Un quoi ?
Un ichthyosaure, c'est un animal marin de la préhistoire.
Donc elle est devenue célèbre ?
Mais pas du tout. Les journaux ont bien signalé cette grande découverte, mais ils ont oublié de mentionner son nom.
Ils ont oublié ?
Pas vraiment, c'était plutôt un choix.
Pourquoi ?
Parce que comme c'était une femme, ça ne compte pas.
Ah, je vois.
C'est comme pour...
Oui, mais suspense. Sarah la reçoit juste après nous. Merci Simon pour cette présentation.
Merci de m'avoir invité.
Merci à Luc et Simon de nous avoir parlé de Marie Huning. Je reçois aujourd'hui une star, une femme qui est à l'origine d'une découverte scientifique majeure. Mesdames et messieurs, je suis ravie d'accueillir au micro Ada Lovelace.
Oh, une star, n'exagérez pas. Mais tout de même, ce n'est pas désagréable de parler de ma découverte qui a si longtemps été attribuée à un homme, Charles Babbage. Et oui, je suis une des femmes que l'histoire a oubliées.
Encore une ? Charles Babbage, le célèbre mathématicien, celui qui a inventé le premier programme informatique ?
Oui, c'est bien avec lui que nous avons inventé ce programme. J'ai beaucoup contribué à sa création, vous savez.
Racontez-nous comment vous l'avez rencontré.
Mais je croyais que c'était de moi qu'on devait parler. Si vous y tenez, nous nous sommes rencontrés lors d'une fête. Il était déjà célèbre, je rêvais de travailler avec lui et je lui ai demandé si c'était envisageable.
Et qu'a-t-il répondu ?
Que si je parvenais à traduire tout un ouvrage en anglais, il y réfléchirait.
Et alors ?
Quelle question ! Bien sûr que j'ai réussi. Et comme vous, il fut bien surpris qu'une femme en soit capable.
Mais d'où vous viennent toutes ces connaissances ?
Mon père, le célèbre poète anglais Lord Byron, m'a abandonnée lorsque j'étais enfant. C'est ma mère, une scientifique en avance sur son temps, qui m'a donné une très solide éducation scientifique et notamment mathématique.
Parlez-nous de votre enfance.
Je suis née en 1815. À Londres, dans une famille noble. Je suis comtesse. J'ai tout de suite aimé les chiffres et le raisonnement mathématique.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre invention ?
J'ai créé un algorithme.
Un algorithme ?
C'est une boucle informatique qui est l'ancêtre de l'ordinateur.
Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas connue ?
Quand les historiens ont retrouvé les traces de notre travail, ils ont cru que Charles m'avait attribué ses découvertes car j'étais sa maîtresse. Pas parce que j'avais été capable de concevoir l'algorithme.
Encore des hommes misogynes.
Eh oui, j'étais une femme, vous savez.
Grâce à votre venue, nos auditeurs sauront comment vous avez fait avancer la science.
Merci de m'avoir donné la possibilité de parler de moi, pour une fois.
Merci, Madame Lovelace. Nous laissons le micro à un trio, Louane, Amélis et Justine, c'est à vous.
Bonjour, je suis accompagnée d'Amélis et de Justine qui va nous présenter Nelly Bly, une femme vraiment hors du commun.
Bonjour Louane et bonjour à tous nos auditeurs. Oui, en effet, Nelly Bly était une femme hors du commun, la première journaliste d'investigation.
Qui était-elle ?
C'était une journaliste, écrivaine et activiste américaine qui a vécu au 19e siècle.
Qu'entendez-vous par activiste ?
Alors, une activiste, c'est une personne qui combat, lutte pour une cause, une idée.
Dans quelle cause s'est-elle engagée ?
Par exemple, elle s'est fait interner dans un asile psychiatrique à New York pour y enquêter sur les conditions de vie des résidents et les dénoncer.
Elle avait suivi des études de journalisme ?
Pas du tout. Elle a intégré une école d'institutrice, mais à la fin du premier semestre, elle ne pouvait plus payer. Vous savez qu'aux États-Unis, la scolarité est payante et très chère. En plus, très peu de carrières étaient accessibles aux femmes à l'époque.
Il me semble savoir que Nelly Bly a réalisé un véritable exploit.
Mais oui, elle a réalisé seule un tour du monde en 72 jours, entre la fin de l'année 1889 et le début de l'année 1890.
Un tour du monde toute seule ? Mais pourquoi ?
Pour battre Phileas Fogg, le héros du roman de Jules Verne, qui avait fait le tour du monde en 80 jours. Elle voulait prouver qu'une femme était capable de réaliser des exploits. C'est un modèle pour nous.
En effet, quelle vie incroyable. Merci Justine d'être venue nous présenter Nelly Bly.
Merci à vous de m'avoir accueillie.
Nous laissons le studio à nos camarades Elias et Camille. Au revoir.
Bonjour chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donner la parole à Camille qui va nous parler de Camille Claudel.
Bonjour, je suis heureux d'avoir été invité dans cette émission.
Alors on va commencer par la question la plus logique, qui est Camille Claudel ?
Camille Claudel est une grande sculptrice française, très douée. Elle a réalisé notamment la sculpture La Valse, c'est une merveille.
Quand a-t-elle vécu ?
À cheval entre le 19e et le 20e siècle, plus précisément de 1864 à 1943.
Et où ?
Elle a passé son enfance à faire un tarte de noix dans l'Aisne, puis elle a fait ses études et travaillé à Paris.
Pour être si forte, elle a dû travailler avec de grands sculpteurs ?
Oui, elle a travaillé avec Rodin, un des sculpteurs français les plus connus. C'était son maître, mais elle l'a aussi follement aimé. Cette histoire amoureuse et professionnelle s'est très mal finie.
Pourquoi ?
Rodin l'a abandonnée. Elle était devenue folle de chagrin.
Folle de chagrin ?
Oui, sa famille l'a fait interner dans un asile psychiatrique et elle y est morte.
C'est pour ça qu'elle est bien moins connue que Rodin ?
Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est qu'elle s'est fait interner et qu'on l'a oubliée. Mais il y a d'autres raisons. C'était une femme dans le milieu des arts. Elle était dans l'ombre de Rodin et dans celle de son frère, Paul, un poète très connu. Pas facile d'être une femme artiste dans ces conditions.
Eh bien, en effet, pas facile. Merci Camille.
Merci à vous, c'était un réel plaisir.
Nous laissons le micro à Léni qui a une invitée très spéciale. C'est Alice Guy.
Merci Elias, bonjour à tous. J'ai une invitée exceptionnelle. Alice Guy, la première femme réalisatrice de films.
Bonjour, je suis flattée que vous ayez pensé à moi.
Madame Guy, pouvez-vous nous en dire plus sur votre métier ?
Je suis réalisatrice, autrice et productrice de films. J'ai travaillé avec Gaumont, j'ai vécu aux États-Unis, tout ça à une époque où les femmes restaient plutôt à la maison.
Dites-nous en plus.
Je suis française et je suis née il y a bien longtemps, en 1873. Je suis malheureusement morte en 1968. Je me suis mariée, j'ai eu deux enfants.
Quel genre de film avez-vous réalisé ?
Oh là là, mais plein de films différents ! Des drames, des comédies, des péplums.
Des quoi ?
Oui, des péplums, des films qui se passent sous l'Antiquité. Mais ce n'est pas tout, j'ai inventé les gros plans, les trucages, j'ai même permis aux personnes de couleur de jouer dans mes films, alors qu'à l'époque, ça ne se faisait pas.
Alors si vous êtes à l'origine de tout ça, pourquoi on ne vous connaît pas ?
Parce que je suis une femme, bien évidemment. Quand je suis partie vivre aux États-Unis, mes films m'ont été volés et des réalisateurs ont dit qu'ils les avaient réalisés. Des hommes, bien sûr.
Décidément.
Comme vous dites, quand je suis rentrée vivre en France, après les États-Unis, tout le monde m'avait oubliée. Mes films avaient pourtant eu tellement de succès.
Merci Alice de nous avoir expliqué votre histoire. Il paraît qu'à la Maison de la Culture de Bourges, une des deux salles de cinéma porte votre nom.
Eh oui, on me redécouvre.
Je vois Maëlle et Paul qui s'approchent du micro. Merci de nous avoir écoutés. Merci Alice.
Merci à vous de m'avoir donné la parole.
Bonjour Maëlle. Vous allez nous parler de Blanche Calloway.
Bonjour Paul. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être en studio.
Pourquoi allez-vous nous parler de Blanche Calloway ?
Car c'est une femme oubliée par l'histoire.
Ah bon ? Qui était-elle ?
C'était une musicienne de jazz band.
Quand a-t-elle vécu ?
Elle est née le 9 février 1902 et est morte le 16 décembre 1978 à 76 ans.
Elle venait de quel pays ?
Elle venait des États-Unis.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Blanche Calloway a été oubliée par l'histoire ?
Oui, car c'était une meneuse d'orchestre. Et en plus, une femme. À l'époque, ça ne plaisait pas à tout le monde.
Pas sûr qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de femmes chefs d'orchestre ?
Oui, en effet. En plus, Blanche avait un frère, Cap Calloway, qui chantait dans son orchestre.
Et ?
Il était jaloux d'elle et a tout fait pour prendre sa place. Et il y est arrivé.
C'est pour ça que Cap Calloway est très connu et pas sa sœur Blanche.
Eh oui.
Merci Maëlle pour toutes ces explications.
Merci de m'avoir invité.
L'émission se poursuit avec Noé et Raphaël. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Paul et bonjour Raphaël. Vous allez nous parler d'Eddie Lamar, est-ce exact ?
Bonjour Noah. Oui, Eddie Lamar. Une femme oubliée par l'histoire, une sacrée inventrice. Elle était née en 1914 et est morte en 2000.
Ah, moi j'avais entendu dire qu'elle avait longtemps été considérée comme l'une des plus belles femmes du monde.
C'est vrai, Eddie Lamar était aussi une grande actrice américaine. Elle a joué dans une trentaine de films. On disait qu'elle avait le plus beau visage d'Hollywood.
Et que ce visage avait inspiré celui d'un film bien connu.
Oui, celui de Blanche-Neige dans le dessin animé de Walt Disney.
Sa grande beauté n'a-t-elle été qu'un atout dans sa vie ?
Et non, le stéréotype de la belle femme idiote. On ne l'a pas prise au sérieux alors qu'elle est à l'origine de l'une des plus grandes inventions scientifiques.
Laquelle ?
Elle est à l'origine du Wi-Fi dont on se sert tous les jours.
Dites-nous en plus.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis sont entrés en guerre, Eddie et son ami George Anteil ont créé un dispositif pour que les mines ne puissent pas intercepter les communications sous-marines. L'ancêtre du Wi-Fi donc.
Comment est-ce possible qu'on ait oublié qu'elle en était à l'origine ?
Elle a voulu déposer le brevet de son invention, mais on le lui a refusé. Plus tard, elle a appris que des hommes l'avaient fait à sa place et qu'ils s'attribuaient son invention.
C'est injuste !
Eh oui, mais attendez, elle n'est pas la seule à avoir subi cette injustice.
Eh bien justement, je vois Catherine Johnson qui arrive et Justine qui va l'interviewer. Merci Raphaël de toutes ces précisions.
Merci Noah de m'avoir permis de répondre à vos questions.
C'est à vous mesdames.
Quel honneur et quel plaisir pour moi de recevoir Madame Catherine Johnson.
Bonjour, merci de me recevoir. J'ai fait un long voyage pour venir ici. Je serai ravie de répondre à vos questions.
Madame Johnson, pouvez-vous nous parler de votre métier ?
Oh, c'est simple, je suis physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale.
Mais vous êtes une femme exceptionnelle.
Oh, n'exagérez pas. J'ai toujours aimé les chiffres depuis toute petite.
Vous êtes modeste. Je sais bien que vous avez rendu possible un exploit. Allez, dites-nous tout.
J'ai réalisé le calcul qui a permis à la fusée Apollo 11 de se poser sur la Lune le 21 juillet 1969.
Une date qui est restée dans les mémoires.
Nous, les Américains, nous avons été les premiers à poser la fusée sur la Lune. Et c'est aussi grâce à moi.
Pourtant, ce n'était pas gagné. Vous avez dû vous battre malgré vos capacités hors du commun pour intégrer l'équipe qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune.
En effet, je suis noire et en plus une femme. Deux handicaps. Les hommes ne croyaient pas en mes capacités. C'est aussi pour cela que mon nom n'est pas célèbre. Alors quand le premier président noir des États-Unis, Barack Obama, m'a remis la médaille de la liberté, j'ai eu ma revanche.
C'est grâce à des femmes comme vous que les petites filles peuvent rêver. Et vous avez prouvé qu'en se battant deux fois plus fort que les autres, on peut réussir. Merci, Madame Johnson.
Merci de m'avoir reçue.
Nous laissons le micro à Samantha et Priscilla.
Merci Justine, bonjour à tous et bonjour à mon invitée Priscilla. Nous sommes ravis de vous écouter.
Merci de m'avoir invitée.
De qui allons-nous parler ?
Je vais vous expliquer qui était Rosalind Franklin. C'était une chercheuse britannique qui a été à l'origine d'une découverte extraordinaire.
Qu'a-t-elle découvert ?
La structure de l'ADN.
La structure de l'ADN, mais qu'est-ce que c'est ?
C'est le support universel de l'information génétique héréditaire. C'est ce qui sert à coder toutes les caractéristiques d'une espèce. La couleur des yeux, la forme du corps. C'est un peu comme le mode d'emploi d'un organisme.
Ah oui, je vois. Et quand a-t-elle découvert la structure de l'ADN ?
En 1953, à l'âge de 35 ans, mais cette découverte majeure lui a été volée.
Volée ? Comment ça ?
Elle a réalisé cette découverte avec deux autres scientifiques. Watson, un professeur d'université physicien, et Crick, un biophysicien. Ils ont dit qu'ils avaient réalisé cette découverte seuls et n'ont pas mentionné le rôle que Rosalind avait joué. Sans elle, pourtant pas de découverte, ses collègues masculins ont reçu le prix Nobel pour cette découverte si importante et elle est rien.
C'est injuste. Vous pensez que c'était parce qu'elle était une femme ?
Quelle autre explication ?
Décidément, ce n'est pas normal. Merci d'avoir pris du temps de nous parler de Rosalind Franklin, Priscilla.
C'était un plaisir.
Noah a un don où vous parlez d'une autre scientifique, elle aussi victime de l'effet Mathilda.
Merci Samantha et bonjour à tous nos auditeurs. Enzo, l'effet Mathilda, vous nous expliquez ?
L'effet Mathilda, c'est le surnom qu'on a donné au phénomène qui a consisté à nier ou à minimiser les découvertes des femmes scientifiques au profit de leurs collègues masculins.
Samantha et Priscilla nous ont parlé de Rosalind Franklin. De quelle autre femme scientifique victime de l'effet Mathilda allez-vous nous parler?
De Marthe Gauthier.
Qui était-elle?
Marthe Gauthier était une médecin, chercheuse et scientifique française. Née en 1925 et morte en 2022, il n'y a pas très longtemps.
Qu'a-t-elle découvert?
Elle a découvert l'origine de la maladie génétique de la trisomie 21.
Pouvez-vous nous en dire plus sur l'origine de cette maladie?
C'est une maladie génétique. Les enfants qui naissent avec la trisomie 21 ont 47 chromosomes au lieu de 46. Cela entraîne un retard mental, une petite taille et un retard psychomoteur.
C'était en effet une découverte majeure. Pourquoi le nom de Marthe Gauthier n'est-il pas connu?
Comme pour Rosalind Franklin.
Encore la faute des hommes?
Et oui, son collègue Jérôme Lejeune s'est attribué la découverte de l'origine de la trisomie 21, alors qu'il n'était que stagiaire et que c'est Marthe Gauthier qui avait fait l'essentiel du travail.
Non.
Et si, c'est honteux.
En effet, merci Enzo pour toutes ces précisions. Nous laissons le micro à Yannis Sébastien qui vont nous parler de Margaret Keane.
Merci de m'avoir accueilli.
Bonjour Yannis.
Bonjour.
Yannis, c'est à nous qu'on revient à la tâche de terminer cette émission. De qui allez-vous nous parler aujourd'hui?
Merci de me recevoir. Connaissez-vous Margaret Keane?
Non, mais dites-moi qui est-ce?
C'est encore une femme oubliée par l'histoire, une artiste peintre américaine.
Quand a-t-elle vécu?
Elle est née en 1927 et morte il y a peu de temps, en 2022.
Quel type de tableau peignait-elle?
Elle avait un style bien à elle. Elle représentait des personnages avec des yeux surdimensionnés. On reconnaît facilement un de ses tableaux, même si ce n'est pas son nom qui apparaît comme signature.
Je ne comprends pas. Elle peignait les tableaux, mais elle écrivait un autre nom comme signature? Elle prenait un pseudonyme?
Non, c'est son mari qui signait les tableaux.
Son mari? C'est étrange.
Son mari n'était pas quelqu'un de très net. Il signait ses œuvres en prétendant que ses toiles se vendraient mieux si les acheteurs pensaient que l'artiste était un homme.
Quelle misogynie!
Surtout, quel menteur! Il a fait croire pendant des années qu'il était l'artiste à l'origine de ses toiles. Et il empoisonnait l'argent. Il est devenu célèbre, mais c'était un imposteur.
J'espère qu'elle a demandé le divorce.
Oui, heureusement, mais il a continué à affirmer qu'il était l'auteur des toiles. Il y a eu un procès. Le juge a donné 53 minutes pour réaliser un tableau en direct. Comme il en était incapable, il a prétexté qu'il avait mal à l'épaule.
Quelle toupée!
Margaret Keane gagna le procès et reçut 4 millions de dollars de dommages et intérêts.
C'est bien normal.
Voilà pourquoi cette femme peintre a été longtemps méconnue du public.
Je ne savais rien de tout cela. Merci Yannis.
Merci de m'avoir donné l'occasion de raconter cette histoire hors du commun.
Cette émission est désormais terminée. Toute la classe de 5e 6 s'est efforcée de vous présenter ces destins de femmes. Il s'agissait du projet de la classe pour cette année. Nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.